VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, un tribunal de Pretoria a interdit aujourd'hui, sous peine d'arrestation, au chef de l'opposition radicale de gauche, Julius Malema, de renouveler publiquement ses appels à l'appropriation de force des terres du pays au profit de la majorité noire. Le fondateur des combattants pour la liberté économique, les EFF, enflamme régulièrement ses partisans en prônant l'expropriation des terres sans compensation au nom de la transformation de l'économie issue de l'apartheid. Julius Malema fait déjà l'objet de deux procédures pour incitation à l'effraction après avoir appelé la population à s'emparer des terrains agricoles inexploités dans le pays. Selon les autorités sud-africaines, seuls 9,8% des terres cultivables du pays appartiennent à des Noirs plus de 20 ans après la fin du régime raciste dirigé par la minorité blanche d'Afrique du Sud. La semaine dernière, le gouvernement a voté contre un amendement parlementaire soutenu par les EFF qui proposait d'autoriser l'expropriation des terres sans compensation. Menace de famine en Somalie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté la communauté internationale aujourd'hui à se mobiliser massivement pour éviter le pire dans ce pays de la Corne de l'Afrique, sur lequel plane l'ombre d'une nouvelle famine. Les nouvelles autorités de la Somalie, pays miné par deux décennies de guerre et de crise humanitaire à répétition, ont décrété fin février l'état de catastrophe nationale. Et les images de corps émaciés commencent à émerger dans les médias, faisant ressurgir le spectre de la famine de 2011 qui avait fait 260 000 morts. Crise humanitaire dans le bassin du lac Tchad. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU vient de terminer une tournée de 4 jours dans la région du lac Tchad où elle s'est rendue au Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria. Que faut-il attendre maintenant de ses membres? À leur retour à New York, la réponse du représentant permanent du Sénégal au Conseil de sécurité, FODESEC, au micro de la correspondante de la Voix de l'Amérique à l'ONU, Margaret Béchir.
On nous a posé la question, pourquoi le Conseil de sécurité refuse de prendre une résolution pour venir en appui à la task force sous-régionale. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de résolution parce que ce n'est pas une résolution qui vous a créé. C'est la détermination des pays de la sous-région de se mettre ensemble et de confronter ensemble ce problème. C'est ça qui va faire venir la communauté internationale. Et nous allons jouer notre partition en tant que membre du Conseil de sécurité pour que tout le système des Nations Unies, tous les partenaires techniques et financiers puissent venir en aide également à ce bassin de l'actuel.
FODESEC, représentant permanent du Sénégal à l'ONU. En RCA, lueur d'espoir dans le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants à Bria, dans le centre du pays. Près de 1000 anciens rebelles de la Séléka sont engagés dans les activités du pré-DDR. Ils apprennent de nouveaux métiers et construisent des bâtiments dans la ville. Et ça marche plutôt bien, nous dit notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Le projet pré-DDR est initié à Bria en octobre 2015 par la MINUSCA. Ici, les bénéficiaires perçoivent chaque 2 semaines une somme plus ou moins à 30 000 francs CFA. Cette initiative a positivement impacté leur comportement. C'est ce qu'explique le superviseur.
Il y a beaucoup de changements. Il n'y a pas de braquage dans les quartiers. Il n'y a pas de banditisme. D'autres, ils sont concentrés seulement à cette activité.
Khadidia Catherine a combattu dans l'ex-rébellion de la Séléka avec cette activité de pré-DDR. Elle explique n'avoir plus l'envie de reprendre les armes.
Nous vivons mieux aujourd'hui. Nous avons décidé de déposer les armes pour retrouver la paix.
Chaque ex-combattant suivra des cours de son choix, notamment dans le domaine de la mécanique, de la menuiserie, de la maçonnerie, de la couture, de l'informatique ou encore de la création des activités génératrices de revenus. Freeman Sipila, Bria, VOA Afrique.
Au Tchad, c'est la trêve entre le gouvernement et les fonctionnaires grévistes. Les 3 centrales syndicales concernées ont déclaré dans un communiqué donné au gouvernement jusqu'au 6 avril, soit un mois, pour négocier les points les plus importants. Gounouk Vaima Ganfaré, le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, prévient toutefois que la patience de leurs militants a des limites.
Nous leur donnons encore un mois, puisque c'est la 3e fois. C'est pour montrer notre bonne foi que nous faisons cela. Parce que s'ils démontrent que le pays a des problèmes, mais nous leur disons qu'ils ne peuvent pas redresser ce pays-là sans nous. Et donc, en leur faisant des propositions concrètes pour redresser la situation, donc nous avons encore accepté, malgré nous, de leur donner cette suspension à l'heure du mardi 7 au 6 avril 2017.
Gounouk Vaïma Ganfari, secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, joint à N'Djamena.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Cameroun, les partis d'opposition dénoncent les restrictions administratives entravant leurs manifestations publiques et réunions politiques. La toute dernière formation politique à s'en plaindre, le Social Democratic Front, le SDF, principal parti de l'opposition, qui n'a pas pu organiser le week-end dernier à Douala une marche pour sensibiliser les populations sur le fédéralisme et l'unité nationale. Le gouvernement a dit craindre les troubles à l'ordre public. À Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
Les restrictions administratives des manifestations et réunions publiques mettent à mal les activités des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Parfait Aloïse Voum, président de la circonscription électorale de Yaoundé 4 pour le Social Democratic Front, le SDF.
Il y a 2 ans, les femmes de Yaoundé 4, à l'occasion du 8 mars, voulaient manifester contre les coupures d'eau et d'électricité dans cet arrondissement. Le sous-préfet n'a pas cru devoir leur donner l'autorisation. On n'arrive pas à travailler, à expliquer nos programmes d'action, à revendiquer, parce que le pouvoir est frileux en matière de manifestation publique.
En 2015, 2016 et en cette année en cours, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a vu plusieurs de ces événements politiques interdits par les autorités administratives. Une interdiction parfois répressive comme le 29 mars 2016. Sostin Médard Lipote, conseiller du président national du MRC, avait été molesté par les forces de l'ordre ce jour-là.
Nous avons été surpris que M. le sous-préfet vienne dans le siège du MRC interdire que nous ayons une conférence de presse alors qu'à l'accoutumée, en notre siège, nous tenons normalement des conférences de presse. Il avait donc eu des canons à eau, des gaz lacrymogènes et puis interpellation massive de plus de 60 personnes.
L'Union des populations du Cameroun, l'UPC, le plus vieux parti politique de l'opposition, passe aussi par les mêmes travaux. Ce qui fait croire à son président qu'il ne saurait s'agir là d'une simple coïncidence pour l'opposition camerounaise. Victor Onana.
Les sous-préfets sont plutôt des supplétifs du parti au pouvoir. Ce qui fait que les partis politiques sont assez maltraités. Même pour les grands partis comme les nôtres, il y a toujours des sous-préfets qui se croient obligés de vous interdire. J'en ai subi très récemment.
Un sous-préfet que nous avons sollicité pour interview n'a pas donné une suite favorable à notre requête. Depuis le retour de la démocratie en 1990, l'opposition et le gouvernement ne s'entendent pas sur les pouvoirs dévolus aux sous-préfets et préfets en matière d'autorisation des réunions et manifestations publiques au Cameroun. Professeur Eric Mathias Owonangini, politologue, enseignant à l'Université de Yaoundé 2.
Il y a une divergence entre les autorités administratives, notamment au niveau du commandement, préfet et sous-préfet, dans l'appréciation de ce que c'est que la déclaration ou alors l'autorisation. Pour ceux qui viennent déclarer les réunions et les manifestations du côté des partis politiques, ils estiment qu'il suffit simplement de déclarer, alors que pour l'autorité, la déclaration ne suffit pas.
Un flou juridique qui jusqu'ici profite aux partis au pouvoir. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Et pour terminer, le nouveau décret migratoire de l'administration Trump a été rédigé de façon à passer l'obstacle de la justice. Jacques Aristide.
L'un des principaux amendements par rapport au décret du 27 janvier, l'Irak ne fait plus partie des pays visés. Les 6 pays de la liste d'interdiction pour 90 jours sont les 3 de la liste du département d'État des pays qu'il dit soutenir le terrorisme. Iran, Syrie, Soudan, de même que 3 présentés comme États en faillite, Libye, Somalie, Yémen. Où vérifier les antécédents des demandeurs s'avère impossible d'après l'administration Trump. Quant aux détenteurs de cartes vertes et de visas, ils sont explicitement protégés. La suspension de l'accueil des réfugiés est décrétée pour 120 jours, comme auparavant. Les réfugiés syriens, qui étaient bannis sine die, sont également bloqués pour 120 jours. Ceux dont le voyage aux États-Unis était déjà planifié pourront toutefois venir. La réécriture a satisfait la majorité républicaine, dont beaucoup s'étaient désolidarisés du gouvernement. Mais les opposants de la première heure, dont le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, ont dénoncé un texte toujours discriminatoire. L'ONG de défense des droits civiques, ACLU, a promis de le contester, tweetant « Rendez-vous au tribunal ».